cette thématique russe qu'on s'enligne. Et on va encore une fois parler d'économie. Cette fois-ci, encore retour en France, mais concept plus global, le patriotisme économique. On est au bout du fil avec Cornelia Wool, qui est professeure de sciences politiques à Sciences Po, au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Elle a accepté notre invitation au bout du fil. Cornelia, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Voilà. Donc, Cornelia, vous êtes professeure de sciences politiques et vous vous intéressez, bien entendu, à l'économie. Le patriotisme économique, c'est une expression qu'on entend de plus en plus. Qu'est-ce que c'est précisément si on fait une comparaison avec le protectionnisme?
Alors, vous avez raison de comparer. Le patriotisme économique, c'est tout simplement un mot ou un concept politique qui renvoie à des choix politiques qui servent d'abord un territoire. C'est une manière de résoudre la tension qui existe entre une économie qui peut être mondiale, qui est parfois régionale, et un territoire politique qui est bien, bien plus petit, mais qui est le lieu de l'électorat dont dépendent les femmes et les hommes politiques. Et donc, résoudre cette tension entre deux territoires qui ne se recoupent pas toujours nécessite l'invention de nouveaux mots, si j'ose dire. Le patriotisme économique en fait partie. Et il est évidemment, il englobe tout un tas d'options, dont le protectionnisme, mais pas que.
Et quand on parle de patriotisme économique, est-ce qu'on fait plus allusion à des décisions gouvernementales, donc l'État qui prend des décisions en favorisant l'économie locale, ou des gens d'affaires eux-mêmes qui sont appelés à avoir ce même type de réflexion? En fait, ça concerne qui?
Ça peut être les deux. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on est plus à l'aise avec le mot patriotisme économique qui a été inventé peut-être en 2005 par Dominique de Villepin ou autour de ce moment-là en France en tout cas. Mais le patriotisme, c'est moins mal connoté que le protectionnisme ou le nationalisme économique. Et il peut venir de l'État, mais il peut aussi venir des consommateurs, de la population. Quand on pense à une stratégie comme aux États-Unis, Buy American, acheter local ou national, c'est une invitation à faire des choix qui ne sont pas forcément contraignants, mais qui en tout cas font bénéficier l'économie nationale pour encourager la croissance, comme le fait Joe Biden actuellement aux États-Unis, dans une ligne qui peut ressembler à celle de Donald Trump, mais qui ne l'est pas, parce qu'elle n'est pas contraignante de la même manière qu'un droit de douane qui ferme les frontières.
Alors, c'est la question que plusieurs se posent. Est-ce que la nouvelle administration Biden risque de fonctionner vraiment différemment vis-à-vis Donald Trump, ou les États-Unis, étant ce qu'ils sont, eux-mêmes sont très, très patriotes sur le plan économique? Pensez-vous qu'il va y avoir des grosses différences de comportement entre les deux chefs d'État en matière d'économie?
Oui, je le pense. Je pense qu'on est vraiment dans deux logiques différentes. Ce qui est similaire, et c'est vrai, d'ailleurs c'est vrai un peu partout, mais chaque homme, chaque femme politique a besoin de rassurer son électorat que l'économie, le destin économique qui touche tous les citoyens est contrôlé, peut être contrôlé, et qu'on est capable de d'abord faire bénéficier ceux qui sont le plus proches. Ça, c'est pas différent ailleurs, et on essaie de le dire d'une manière qui rassure, l'économie ne nous échappe pas. Alors, comment on le fait en temps de crise? Nous vivons une pandémie qui, bien sûr, met l'économie sous forte tension. On peut le faire de manière tout simplement rhétorique, ou même avec des mesures qui essaient de cibler d'abord ceux qui sont sur ce territoire et de leur donner des avantages. Ou alors, on peut le faire de manière beaucoup plus restrictive ou beaucoup plus agressive vis-à-vis de l'extérieur. Et c'était la politique de Donald Trump. Il a aussi, parce qu'il avait ses moyens, beaucoup gouverné par les droits de douane qui imposaient à des industries, notamment des industries des pays qui voulaient toucher. Et donc, on était dans quelque chose qui était assez agressif, assez ciblé et qui parfois, d'ailleurs, faisait mal aux Américains en premier, parce que quand on attaque la Chine et les produits américains sont produits avec beaucoup de parts chinois, à la fin, c'est aussi les Américains qui vont sentir les effets de ces actions. Je pense que la différence aujourd'hui, c'est une politique que peut mener Joe Biden va aussi privilégier l'économie américaine d'abord, et va essayer de soutenir l'économie américaine, mais le fera peut-être de manière moins agressive, ou en tout cas quand elle sera agressive, elle sera plus cordiale et annoncée. Je pense qu'on va voir dans les réseaux diplomatiques qui marchent à nouveau, avec des menaces qui sont peut-être envoyées, mais avec des petites alertes pour qu'il puisse y avoir des réactions avant qu'arrive le marteau ou le droit de douane ou une action plus dure encore.
Et je vous cite dans le journal Le Monde, vous affirmez que le patriotisme économique est peut-être une manière de surmonter les clivages gauche-droite. Si j'ai bien compris, le patriotisme économique n'est pas un concept planqué à gauche ou à droite, mais entre les deux.
Exactement, ça peut être les deux. On voit que les politistes qui s'intéressent au clivage partisan ont longtemps travaillé avec cet axe gauche-droite qui opposait ceux qui étaient en faveur d'une économie libéralisée et ceux qui voulaient plus d'aide d'État, intervention d'État, voire même un rôle de pilote d'État dans l'économie. Et aujourd'hui, on voit que le jeu politique se déplace dans certains pays plus que d'autres, mais autour d'une axe qui est une axe d'ouverture culturelle, sociale, mais aussi économique vers le monde ou un repli sur soi qui est donc plus concerné avec le territoire, la souveraineté qu'on a sur ce territoire. Et cet axe ouverture-fermeture, qui porte des noms différents, elle est totalement indépendante de l'axe gauche-droite. Donc on peut trouver des partis à droite qui prônent ce repli sur soi, et on le connaît aujourd'hui dans beaucoup de pays, on pense souvent les populistes de droite qui tiennent cette posture-là, mais il est également possible d'être souverainiste économique et de gauche, c'est-à-dire ne plus avoir cette idée d'une internationale socialiste, un prolétariat qui doit nécessairement dépasser les frontières, mais de dire on a envie d'un État qui s'occupe de nous, mais qui s'occupe d'abord de nous en France, de notre territoire, avec un certain conservatisme ou en tout cas une certaine fermeture. C'est pas une position très confortable pour la gauche, qui était longtemps vers une ouverture culturelle plus grande, mais c'est imaginable. En tout cas, on voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de stratégies économiques autour de ces enjeux-là.
Alors, en conclusion, si ce n'est pas une position confortable pour la gauche, est-ce que ça l'est pour la droite? En clair, Bruno Le Maire, lui-même issu de la droite, lui-même issu des Républicains, est-il confortable dans cette position?
C'est un grand écart, mais qui, en tout cas, qui a été réussi pour ce dernier événement qui concernait donc la reprise de Carrefour par Couche-Tard, puisqu'il est aussi opposé avec des arguments de souveraineté économique qui ont plu partout en France, de la gauche à la droite, pour des raisons différentes d'ailleurs, pour certaines pour des raisons de protection d'emploi, pour d'autres par contrôle de territoire ou même anti-internationalisme affirmé. Mais en tout cas, politiquement, la décision a été saluée. Alors, elle peut étonner un petit peu parce que c'est vrai que le gouvernement d'Emmanuel Macron est un gouvernement d'ouverture et d'encouragement des investissements étrangers. Et il faut comprendre qu'il y avait une politique qui allait dans deux directions en parallèle. Cet encouragement de l'investissement étranger très fort de la politique du gouvernement Macron, mais en même temps, un renforcement des procédures de surveillance avec la définition de secteurs stratégiques qui est depuis 2005, 2014, ensuite 2011, 2019, a été de plus en plus restrictif sur un certain nombre de questions qu'on considère en France comme relevant de la sécurité nationale, santé publique, territoire ou autre. Et le double tranchant ou le grand écart qu'il faut réussir à faire, c'est de dire oui, nous avons envie d'investissements étrangers, et c'est sans doute le sens de la proposition qui a été faite par Couche-Tard, et il faut la saluer, mais en même temps, on est soucieux de regarder un certain nombre de questions en fonction de la sécurité du pays. Mon avis personnel, c'est ici, cet argument, elle ne tient pas très bien. Et on va le voir, je pense qu'on n'a pas vu la fin de cette discussion. Mais dans d'autres secteurs, on peut le voir quand on parle par exemple d'un certain nombre d'investissements chinois qui posent des questions de sécurité, parfois de défense ou de sécurité des données ou d'autres. On peut avoir cette contradiction qui est encouragement d'investissements étrangers, mais un veto potentiel quand il y a des sujets stratégiques.
Voilà, alors c'est à suivre. Est-ce que le patriotisme économique a des beaux jours devant lui? C'est à suivre. Cornelia Wool, donc, je le rappelle, vous êtes professeure de sciences politiques à Sciences Po, laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous.
Merci.